Ce qui devait arriver arriva. Le retour du débat budgétaire en commission a été l'occasion d'une véritable foire aux taxes et aux idées gabégiques. Entre distribution des logements sociaux gratuitement aux occupants depuis plus de 20 ans et velléité de suppression du plan épargne retraite. L'effroi ressenti devant ces élans démagogiques de droite, de gauche ou du centre, selon les clientèles visées, n'est tempéré que par la quasi-certitude que rien de tout cela ne franchira le Sénat, ni une commission mixte paritaire. Mais au milieu de tout cela, aussi une lueur d'espoir. La suspension des retraites serait d'abord financée par une érosion des pensions. Est-ce un rêve ? Enfin, la question est envisagée concrètement après, reconnaissons-le, des mois de percolation dans l'opinion publique. Mais la suspension aura-t-elle seulement lieu ? Le gouvernement survivra-t-il assez longtemps pour qu'elle devienne réalité ? Car déjà, le Parti socialiste brandit de nouveau la menace de la censure si on ne lui accorde pas sa taxe Zucman ou un équivalent. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 24 octobre 2025, il est 21h34. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission consacré aujourd'hui donc à la France. J'irai peut-être quelques mots d'autres actualités à la suite. Mais c'est notre live hebdomadaire, donc comme d'habitude, il sera suivi dans le live privé réservé à nos très chers souscripteurs, dans lequel je répondrai à toutes leurs questions qui auront été notées par notre ami Iruma. À la fin de ce live, je ne répondrai qu'aux questions qui auront été éventuellement faites avec un don pendant l'émission ou à votre question si elle est sélectionnée, tirée au sort au titre de la question choix. Je profite pour m'excuser encore une fois, je suis désolé, il n'y a pas eu de bulletin cette semaine non plus, mais comme je l'ai dit sur le Telegram cette fois-ci, c'est pas parce que je ne l'ai pas fait, parce que je l'avais préparé, je l'ai enregistré, et une fois enregistré, je venais de passer 35 minutes à l'enregistrer. J'avais pas de fichier, je l'ai pas retrouvé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, du coup, j'avais mis le conducteur en entier pour que vous ayez au moins les infos, que vous soyez pas privé du travail et que j'ai pas bossé totalement pour rien. Mais j'en suis bien désolé, j'espère que j'arriverai à refaire tout ça semaine prochaine. J'ai quand même été aussi grippé cette semaine, donc j'étais un petit peu fatigué. J'ai peut-être fait une fausse manip en enregistrant. Pourtant, le compteur tournait, donc a priori, c'est que ça devait fonctionner. Donc, on va aborder le sujet de ce soir. Alors, je suis un petit peu embêté, j'ai pas de retour du chat en direct, parce que j'aimerais savoir si le son va mieux, parce que nous avons travaillé l'autre soir pour essayer de régler le son de sortie. A priori, ça devait convenir à tout le monde, à la fois ceux qui entendaient déjà bien et ceux qui n'entendaient pas. Donc, j'espère que tout ceci est réglé. Maintenant... voilà, vous avez l'air d'apprécier le son, donc écoutez, c'est tant mieux, je n'aurai plus à m'en soucier pendant l'émission. Alors, je disais en introduction que, comme attendu finalement, puisque la dernière émission que j'avais fait sur le sujet, je vous avais dit à mon avis que ça allait tourner assez rapidement à la foire à la saucisse, et qu'on pouvait s'attendre à ce que les négociations sur le budget se passent mal, parce que c'est très compliqué d'obtenir... un consensus et même en dessous de ça une majorité sur un nombre suffisant de décisions, parce que malgré tout le budget à la fin il doit être voté dans sa globalité et c'est là qu'est tout le problème. C'est que grosso modo, si on veut vraiment que le Parlement adopte un budget, il faut que après des examens proposition par proposition il soit défini un équilibre global que tout le monde peut voter. Or, vous pouvez avoir des gens qui votent des choses proposition par proposition, et à la fin avoir un équilibre global qui n'est pas apprécié. C'est pour ça, semble-t-il, qu'il commence à y avoir des tractations, et Mélenchon les a dénoncées, puisqu'il y aurait eu une réunion entre, grosso modo, le bloc central et la gauche, jusqu'aux écologistes, afin d'essayer de savoir, en gros, sur quoi il faut voter. Parce que, grosso modo, si vous voulez arriver à la fin à un budget global qui est sur lequel vous êtes d'accord, eh ben, il ne faut pas vous contenter de voter les propositions les unes après les autres quand elles arrivent en commission et en débat. Il faut négocier d'une certaine manière a priori pour que vous soyez sûr que certaines des propositions que vous allez proposer soient votées aussi par des gens qui peuvent être contre, mais en échange d'une autre proposition, par exemple, qui sera négociée dans le cadre précisément de l'accord global. Donc c'est, techniquement, c'est ça aussi le problème. C'est d'arriver, à travers une négociation d'amendements les uns après les autres, à avoir un équilibre global avec lequel les gens, vous avez aussi une majorité qui est d'accord. Parce que vous pouvez arriver à la fin avec tout un tas de propositions qui ont toutes été votées à la majorité, certes, mais où il n'y a pas de majorité sur le texte global, parce que ce n'était pas toujours la même majorité, et que le texte global, malgré tout, il y a, vous savez que selon le vocable consacré, vous avez des lignes rouges qui sont franchies, etc. Et très clairement, ces jours-ci, on commence à voir le Parti Socialiste, puisque vous savez que la première fournée, on va dire, de discussion est arrivée à son terme, qu'il y a des choses qui ont été adoptées, qu'il y a des choses qui ont été rejetées, que rien n'est définitif encore une fois, parce que l'idée c'est que ça peut être ensuite, ça peut être retoqué devant le Sénat, en commission mixte paritaire ça peut sauter, et à la fin, même s'il n'y a pas de 49.3, on peut se retrouver sur un budget par ordonnance, ça, vous avez dû assez l'entendre dans les médias sans que je revienne là-dessus. Mais du coup, la question commence à se poser pour le PS de savoir vers quoi ils vont. Parce que la suspension des retraites, ils pensent l'avoir déjà obtenue, et notamment parce que ça se fera à travers un biais, si vous voulez, qui est la lettre rectificative. Alors là aussi, c'est pas très nécessaire d'aller dans le technique, mais quelle est l'importance de la lettre rectificative ? C'est que la lettre rectificative, elle vient modifier le budget initial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si le budget n'était pas voté et que le budget passait par ordonnance, comme quand dans ces cas-là, le budget que vous faites passer par ordonnance, c'est le budget initial, vu que par lettre rectificative, la suspension est dans le budget initial, vous êtes sûr qu'à la fin, même si vous passez par ordonnance, ça sera dans le budget qui sera effectivement mis en œuvre. Donc c'est pour ça qu'il y avait un petit débat là-dessus, et que visiblement le gouvernement ne pouvait pas faire autrement que de passer par ce biais-là pour contenter les socialistes. Mais maintenant que les socialistes ont obtenu ça, et que ça s'est déposé, ils commencent à discuter le reste. C'est-à-dire ils commencent à discuter le prix auquel ils doivent payer ça. Et dans ce prix à payer, et là, c'est la première fonction très intéressante, et je me félicite de la tournure qu'a pris le système depuis hier soir, c'est que vous voyez tout un tas d'élus de la France Insoumise notamment venir se plaindre de ce que, et d'ailleurs ça semble à peu près assumé par le cornu, et de plus en plus il semble même sortir que, pour le coup il faut lui rendre... faut lui rendre grâce là-dessus, il semble ressortir que c'était grosso modo ce qu'avait exposé Macron lui-même lors de la fameuse réunion qui a précédé le gouvernement Le Cornu 2. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez suspendre la réforme des retraites, très bien, mais ça se fera par, grosso modo, l'érosion des retraites, le temps que autre chose soit mis en place. Et ce qui est assez surprenant parce que c'était son électorat, mais comme il est assez versatile, peut-être qu'il a l'impression que son électorat le lâche, comme c'est Macron, il veut se venger d'ores et déjà sur lui, en disant, mais puisque c'est ça, puisque vous ne me soutenez plus, je vais vous le faire payer. Puisque vous n'avez pas été capable de me redonner une majorité, que peut-être un certain nombre d'entre eux se sont tournés vers d'autres formules politiques lors de ma dissolution ratée, eh bien vous allez vous débrouiller. Autre chose d'ailleurs, je le souligne anecdotiquement, mais qui vous montre à quel point il y a quand même aussi un problème personnel là-dedans, c'est qu'il n'a pas pu s'empêcher d'aller expliquer que c'était pas une suspension mais un décalage, ce qui a obligé le cornu à redire que si, c'était une suspension, et c'était pas un décalage. Ce qui en soi est aussi une évolution de la Ve République malgré tout, parce que le Premier ministre qui revient reprendre le Président de la République en disant si, c'est bien ça, il vous a dit n'importe quoi, ça aussi c'est nouveau, donc c'est toujours... Dans le mouvement, on va dire, de l'évolution du régime vers la parlementarisation. Parlementarisation, donc, il continue, et ce que je viens de vous expliquer sur ce qui se passe au Parlement en est l'exemple. Mais donc, je reviens à la question du Parti Socialiste. Maintenant, le Parti Socialiste est confronté à l'étape suivante. Je vous avais dit la dernière fois que le gros problème de cette histoire de calcul, justement, sur la suspension, c'est que, médiatiquement, ou en matière de psychologie politique, au moment où vous obtenez le truc, c'est bien, Mais si ensuite, pendant 2 mois, vous devez vous taper des annonces qui, pour votre électorat, sont de la casse sociale et des choses comme ça, ben, quand vous arrivez derrière aux élections suivantes, qui peuvent être sur une dissolution, mais qui seront de toute façon les municipales qui arrivent vite, hein, c'est dans moins de 6 mois maintenant, ben, vous devez arriver devant vos électeurs et leur expliquer pourquoi vous avez accepté ça. Et vous avez beau revenir toujours sur le métier gagné sur les retraites, c'est comme ça, les gens peuvent avoir l'impression, ne serait-ce que parce que le prix arrive après le gain, hein, toujours pareil, c'est beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un que ça valait le coup quand vous lui imposez un certain nombre de sacrifices et qu'à la fin, il a la récompense. S'il a la récompense dès le début et qu'ensuite, il doit payer, psychologiquement, on n'est pas fait pour accepter ça facilement. C'est toujours plus compliqué de devoir payer après. Donc voilà toute la difficulté de l'équation politique devant laquelle s'est mise le Parti Socialiste. Il était bloqué en sens inverse parce qu'il ne pouvait pas... À partir du moment où on lui offrait ce cadeau de la suspension des retraites et un certain nombre d'autres cadeaux, honnêtement, il faut comprendre la posture d'Olivier Faure, en particulier quand il dénonce la France insoumise, en lui disant « Attendez, vous passez votre temps à parler de 6ème République parlementaire, mais en même temps, vous ne parlez que d'élections présidentielles. Il y a quand même une contradiction. » C'est vrai, je ne vais pas lui donner tort là-dessus. Mais donc, ce qu'on voit, et donc il y a des choses qui sont sorties là-dessus, il y a Boris Vallaud qui en a parlé aussi, Olivier Faure... Ils sont en train, vu que le premier round, on va dire, de négociation n'a pas tourné à leur avantage, et cela avant même, encore une fois, qu'il y ait des choses qui soient retoquées éventuellement par le Sénat, eh bien, ils réagitent la menace de censure. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, certes, on est entré dans le débat parlementaire, que leur a promis Le Cornu, mais maintenant, ils ne s'adressent plus tellement à Le Cornu, ils s'adressent aux autres députés, aux députés du centre en particulier, en leur disant « Attention, vous êtes bien content qu'on n'ait pas fait tomber votre gouvernement, très bien. Par contre, si vous ne votez pas mieux, si vous ne vous mettez pas à voter des trucs qu'on propose, on va quand même censurer. » Donc la menace se maintient. La menace se maintient et si elle ne trouve pas de réponse, elle va peut-être aller jusqu'au bout. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses... Alors je parierai pas immédiatement sur la censure hein, tout de suite parce que, on va dire... La volonté de survivre et de survie qui touche le centre, vraisemblablement, qui a déjà montré qu'il était capable d'avaler des couleuvres comme la suspension de la réforme des retraites. Alors, vous pouvez trouver votre limite très vite hein, en disant on va pas reculer comme ça jusqu'à longtemps, donc on arrête, très bien. Mais en même temps, il faut pas sous-estimer la capacité au compromis de ces gens-là juste pour éviter la censure. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que je vous avais parlé dans la dernière émission du fait qu'on était arrivé à un stade où il y a des choses qui peuvent se passer, qu'il est très difficile d'anticiper, mais qui peuvent donner des brusques coups d'accélération qu'on n'avait pas vu venir, comme typiquement la démission de Le Cornu au bout de 15 heures, ce qui était absolument impossible à voir venir. Mais donc le fait que là, alors qu'il y a 10 jours maintenant, on est parti sur une négociation, hein, on est parti sur... l'idée de trouver un budget avant la fin de l'année, etc., mais il n'est pas impossible que ça capote au bout de 10 jours avec une motion de censure socialiste parce qu'ils ne seront pas contents. Alors, ça serait un peu tôt. Encore une fois, je serais étonné que... Alors, Boris Vallaud, semble-t-il, a dit que beaucoup de choses allaient se jouer ce week-end. Donc, ils ont la volonté de discuter avec les centristes pour essayer de voir si une sorte de pré-compromis est possible, en gros. Mais si les socialistes sentent qu'un compromis n'est pas suffisant, notamment, ils parlent de justice fiscale. Donc, en gros... C'était les autres choses qu'ils avaient demandé. Si vous vous souvenez, pour accepter Le Cornu, pour ne pas censurer Le Cornu, ils demandaient essentiellement 2 choses. La deuxième chose, ils l'avaient rajoutée un peu juste avant la nomination de Le Cornu. Ils avaient dit, 1, suspension de la réforme des retraites, immédiate, etc. Ça, on peut considérer que c'est acté avec la lettre rectificative. Mais deuxième chose, plus de justice fiscale, notamment éventuellement la taxe Zucman. Donc à partir du moment où le budget n'évolue pas vers ça, ça va leur poser un gros problème. Et ça va leur poser d'autant plus de problèmes que cette idée de la justice fiscale, elle s'accompagne désormais des questions justement dont je parlais, sur le prix à payer sur cette question des retraites. Sur savoir qui allait payer la réforme des retraites. Donc ça, c'est le calcul qui arrive, et donc on n'est pas à l'abri d'une surprise la semaine prochaine, auquel cas je serai amené à faire encore un live exceptionnel, où le Parti Socialiste, s'il a l'impression que c'est vraiment bloqué, ne prendra pas le risque de passer pour les dindons de la farce, notamment en vue des prochaines municipales, et se décidera à censurer, en disant « on a obtenu une victoire, néanmoins qui est la suspension de la réforme de la retraite, parce qu'en gros, maintenant, c'est déposé, donc même si le budget, même si le projet est repris plus tard, eh bien, il est acquis d'une certaine manière, ce qui est peut-être une partie de la manœuvre d'ailleurs. Mais pour le reste, c'est inadmissible, ça va nulle part, donc il nous faut une majorité claire, etc. Et c'est vrai que Olivier Faure est quand même reparti un petit peu dans ses dernières déclarations sur ce qui était le narratif de, et les éléments de langage du nouveau Front populaire depuis l'année dernière, c'est-à-dire en gros, on a gagné les élections, les Français nous ont porté, etc. Ça porte une exigence de justice fiscale, donc il faut faire quelque chose dans ce sens-là, sinon ça ne nous va pas, on demande la censure. Bon. Donc, possibilité. À ce stade-là, je dirais, c'est du doigt mouillé, hein, mais je dirais que je suis sur 30% de possibilité. Voilà, je pense encore, il est majoritaire que pour l'instant, au moins le centre arrive à faire patienter les socialistes pour la semaine qui vient. Donc je ne pense pas. Je serais surpris s'il y a une motion de censure, mais en même temps surpris, pas surpris, puisque ça serait dans le mouvement, et je vous ai dit qu'il y aurait peut-être des choses qui réaccéléreraient. Puis si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera peut-être la semaine d'après. Enfin, de toute façon, encore une fois, comme je vous l'ai dit la dernière fois, contrairement à l'avènement de Bayrou, qui a réussi à faire passer direct le budget précédent, là, l'avènement de Le Cornu s'est fait en étant encore sous la pression, sous l'aiguillon de la nécessité de trouver un budget à la France. Et donc de négocier sur le budget, et donc de faire des mécontents. Donc le sursis est toujours là. Ça va être très intéressant de voir la semaine prochaine si déjà le gouvernement Le Cornu peut tomber. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est le débat justement et la question sur savoir si le Parlement est capable de s'accorder sur un budget et sans aller jusqu'aux ordonnances, ça pèse justement sur le débat, parce que plus il est certain, notamment pour le Parti Socialiste, que en fait ça ira aux ordonnances à la fin et que ça sera un budget de CMP voulu par le Sénat et que ça sera juste les 14 milliards d'euros d'impôts en plus, etc. Et en plus, une réforme des retraites dont le coût tombe sur les retraités, il y a un moment où probablement qu'ils censureront avant que ça passe par ordonnance, si c'est ça. Parce que l'idée, c'est que le gouvernement peut, hein, je rappelle, c'est ce que dit le texte, le gouvernement peut passer le budget par ordonnance s'il n'est pas passé au bout de 70 jours. Le moyen d'empêcher un gouvernement de passer le budget par ordonnance, c'est de le censurer. Donc, de toute façon, il n'est pas du tout impossible que si les socialistes voient venir un budget qui ne leur convient pas, ils censurent au dernier moment. À mon avis, ils seront censurés plutôt en amont s'ils sont déjà persuadés que c'est vers ça qu'ils vont. Donc voilà pour l'évolution de ça. La question des retraites, très intéressant. La question des retraites, comme je l'ai dit, moi j'étais assez favorable à la suspension de la réforme des retraites. Pourquoi ? Alors, pas du tout. Alors, sur le fond, je suis d'accord avec le principe de la réforme des retraites, en gros, qui est que de toute façon, si on veut, il faut travailler plus longtemps, clairement. Comme je l'ai dit, c'est plus adapté. L'idée d'avoir une retraite à 60 ans pour être en vacances et avoir une espèce de paradis, on va dire, dans une vision matérialiste de la vie, où vous pouvez partir à la retraite en bonne santé et en étant payé comme si vous étiez actif, c'est juste pas possible, en particulier quand vous avez une société qui vieillit. Donc, je n'y crois rationnellement pas. Après, est-ce qu'il faut faire une réforme plus ample, notamment la question de la retraite à points, ça me paraît plus intelligent. Et surtout, au-delà de, à la limite, mon avis technique personnel, ça me paraît plus conforme à ce que fait un pays en révolution nationale. C'est-à-dire qu'il a tendance à refondre le système, et je pense que la transition vers un régime de retraite à points entièrement repensé avec un certain nombre de choses revues, ce serait assez typiquement ce que un des éléments, en tout cas une des choses qui pourrait être faite dans le cadre des grandes réformes économiques qu'engagerait une révolution nationale. Donc je pense que ça serait assez logique. Maintenant, autre chose. Donc pourquoi malgré tout j'étais pour la suspension de cette réforme, même si je pense que c'est nécessaire de travailler plus longtemps, etc. Parce que la réalité, c'est que cette réforme telle qu'elle a été votée, et si elle a été votée comme ça aussi vite, c'est que le but, c'était un but essentiellement de court terme, c'est-à-dire de pérenniser le système tel qu'il est maintenant, sans toucher aux retraites, sans toucher au montant des pensions, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait, pour les gens qui sont encore actifs, d'allonger leur durée de cotisation pour s'assurer que les retraités qui sont maintenant continuent à toucher plein pot les retraites qu'ils touchent, qui sont déjà importantes, vous le savez, et qui ont été réévaluées ces dernières années. C'était l'année dernière que ça avait pris 4%, je crois, ça a coûté 15 ou 20 milliards, enfin, démentiel. Donc le but, c'était d'assurer ça, en fait, la réforme des retraites. Hein. D'ailleurs, je crois que ça avait été, mentionné, ça, dans les ordres de grandeur. Des gens avaient dit, donc en fait, en gros, la réforme des retraites qu'on vient de faire, ça a permis de financer les économies que ça fait, ou les gains que ça fait, ont été quasi entièrement englouti dans cette réévaluation des retraites. Et c'était exactement ça qui s'était passé. Et donc, si vous mettez ça en lien, toujours pareil, avec les sondages sur les gens qui étaient favorables à la réforme des retraites, où on voyait que de manière écrasante, c'était essentiellement les retraités qui étaient majoritairement pour, les actifs étaient contre, et bien vous compreniez quel était le fond de l'affaire. C'est-à-dire que le fond de l'affaire, c'est qu'il s'agissait d'augmenter la durée de cotisation des actifs, c'est-à-dire de faire travailler plus les actifs actuels, pour maintenir le niveau des grosses retraites, et que pour la suite, on verrait plus tard, ça voudrait dire qu'en fait, les actifs qui seraient rincés aujourd'hui n'auraient pas de retraite demain, mais que les retraités aujourd'hui toucheraient plein pot. C'est ça l'enjeu du truc. Et donc à partir du moment où la réforme des retraites servait à ça, elle servait à continuer à rincer les retraités actuels alors qu'on sait qu'ils ont un niveau de vie supérieur, etc., c'est acquis, les chiffres sont établis, il n'y a aucun problème là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas suivi le débat. Eh bien, dans ce cas-là, vous... cette réforme des retraites devait être suspendue. À partir du moment où vous êtes un actif qui considère qu'il y a un problème avec les retraites des gens des boomers, pour faire court, hein, je sais que c'est un terme caricatural, mais je veux faire court, avec le fait que ce sont des gens qui récupèrent deux fois ce qu'ils ont cotisé, alors que ce ne sera pas le cas des gens de notre génération. Donc déjà que si vous voulez juste rééquilibrer entre les gens de notre génération et les gens de maintenant, pour qu'on touche la même chose, ben, il faut baisser les retraites de 50%, grosso modo c'est l'idée. Vous ne pouvez pas accepter cette réforme des retraites. Et donc, moi, j'ai toujours été critique des gens qui estimaient que être contre la réforme des retraites, en gros, c'était être un démago, c'était pas vouloir que les gens travaillent plus longtemps, etc. Et j'étais contre aussi, parce que j'ai vu un certain nombre de libéraux, du coup, être favorables à cette réforme des retraites, parce qu'il y a un certain nombre, il y a des libéraux, il suffit que vous leur disiez, on va faire, il faut, les gens vont travailler pendant plus longtemps pour qu'ils soient contents. Ils ont l'impression que le libéralisme, c'est pas forcément de faire travailler plus les gens, mais il y a des gens qui ont l'air de penser que oui, ils peuvent travailler plus longtemps pour la même chose, c'est pas. Non, c'est pas ça la question. Et donc, ces gens-là ont tendance à voir, par exemple, les jeunes, le fait que les jeunes étaient contre cette réforme des retraites, en disant, mais regardez, hein, en fait, les jeunes, ils ne pensent qu'à leur future retraite et ils veulent déjà être à la retraite à 60 ans alors qu'ils en ont 25. Et donc, ils veulent pas qu'on leur bousille ça. Alors que qu'est-ce que ça veut dire, 2 ans, en gros, quand vous avez cet âge-là, ils savent pas dans quel état ils sont à 65 ans, etc. Bon. Et donc, c'était vu comme ça. Alors que moi, je suis pas d'accord du tout. Je ne pense pas du tout que les gens qui sont à 5 ans de la retraite aujourd'hui et les gens qui sont à 20 ans avaient la même perception du problème. Je pense que la réalité, c'est que chez beaucoup de jeunes, comme il y a la certitude que de toute façon, ils ne toucheront pas de retraite, il était hors de question qu'on vienne leur expliquer qu'ils devraient bosser 2 ans de plus que ce qui est le cas pour les boomers, juste pour pour permettre aux boomers de toucher leur retraite pleine tant qu'ils seront en vie. Et donc, moi, depuis le début, l'hostilité à la réforme des retraites, je la comprends sous cet angle-là. C'est-à-dire le fait tout simplement que sa réforme des retraites telle qu'elle a été votée, il s'agissait de dire aux actifs, on maintient le niveau des retraites, on va même le leur réélever, c'est ce qui a été fait. Par contre, vous devrez travailler plus longtemps pour la même chose ou pour moins. Voilà. Et ça, effectivement, c'est inadmissible. C'est pas être LFI ou communiste que de dire que c'est inadmissible. Le problème, c'est que ça pérennisait le système d'exploitation des actifs par les retraités. Donc c'est une excellente chose de revenir dessus. C'est une excellente chose de revenir dessus, et c'est encore plus une excellente chose quand vous constatez que le premier effet de ça, c'est que enfin et pour la première fois, on se dit, ben, puisque on suspend la réforme des retraites, il faut baisser les retraites. Il faut laisser s'éroder en désindexant partiellement, etc. Un truc comme ça. Il ne s'agit pas encore d'un gros coup de rabot. Hein. Enfin, il y a cette idée-là. Même si vous avez des députés qui ont essayé d'abolir la suppression des 10% de frais professionnels pour les retraités, ça, c'est enfin un truc qui va dans le bon sens. Le fait de laisser éroder les trucs et de renverser donc la charge. Et donc, pour la première fois, on demande aux retraités de payer pour ça. En même temps, ça confirme tout ce que je viens de vous dire sur le fait qu'il s'agissait d'exploiter les actifs, puisque ça veut dire qu'en gros, si on ne fait pas plus bosser les actifs, on est d'une certaine manière obligé les retraites. Donc c'est bien que si vous faites plus bosser les actifs, c'est pour maintenir le niveau des retraites. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est le début des choses et je pense que c'est une des choses que j'avais mentionné. Je ne sais plus si je l'avais dit dans la vidéo ou si je l'avais mentionné sur Telegram, que je trouvais ça intéressant, la suspension des retraites justement, pour les raisons de nécessité que je vous ai dit, mais aussi parce que ça serait probablement l'occasion, vu que depuis qu'il y a eu la réforme des retraites, Il y a eu tout le débat sur les retraites géantes. Il faut bien se rendre compte de ça. Si vous vous souvenez bien, au moment où la réforme des retraites a eu lieu, on ne parlait pas de ce problème des retraites géantes. Tout le truc de, que ce soit Nicolas Kippé, les retraites géantes des boomers, etc., tout ça n'est arrivé dans les médias mainstream qu'après la réforme des retraites. Les gens qui parlent dans les médias de la question de la taille des pensions, etc., tout ça, c'est arrivé après. C'est arrivé, c'est véritablement depuis 2 ans que ça a explosé dans l'audimat. Probablement porté par le débat sur la réforme des retraites, mais c'est venu informer l'agacement des actifs sur la question de la réforme des retraites. Et donc, ça veut dire qu'on a suspendre la réforme des retraites, c'est revenir sur la réforme dans un contexte d'opinion publique qui n'est pas du tout le même, qui est désormais un contexte beaucoup plus informé et où vous avez véritablement un camp des actifs qui s'est structuré, alors qu'il n'existait pas. Le camp des retraités existait, qui savait ce qu'il voulait, mais le camp des actifs pressurés par les cotisations de retraite n'existait pas. Maintenant, il existe. Maintenant, il existe, et donc ça nous amène dans ce débat au fait que la suspension de la réforme des retraites peut être le début de la fin du régime des retraités, si vous voulez ce que j'appelle le régime des retraités, c'est-à-dire le gouvernement du pays par les actionnaires, parce que je crois que c'est Jérôme Fourquet qui parlait des actionnaires de la France, il disait que les retraités étaient les actionnaires de la France, c'est-à-dire ceux qui pressurent les travailleurs français, n'est-ce pas, les salariés, pour toucher leurs dividendes qui sont les retraites. Et c'est tout à fait ça. Et donc, je pense que sur le plan révolutionnaire, on touche là quelque chose qui est véritablement un tournant avec cette idée de la réforme Lecornu et le fait que ça semble assumé par Lecornu. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire le fait tout simplement de laisser tomber l'électorat macroniste traditionnel en disant « oui, on suspend la réforme des retraites alors qu'on l'avait faite pour rincer nos retraités ». Il l'a fait pour ça, parce que c'était leur électorat. On suspend cette réforme, et en plus, c'est vous les retraités qui allez payer pour ça. Extrêmement intéressant. Début de mutation totale. Et ça nous ramène sur ce que je vous ai déjà dit, sur ce que je pense que va être la mutation du clivage pendant la Révolution, avec un glissement de plus en plus des retraités vers le camp réactionnaire, que le camp est déclassé, alors que je pense qu'il va y avoir une déportation des actifs, qui actuellement sont RN, mais qui vont se recentrer par la suite, au fur et à mesure qu'ils vont prendre le pouvoir. Parce qu'en fait, c'est ça qui va se passer. Et donc, je voulais avoir aussi, ce soir, pour pas rester juste dans le commentaire politique, etc., de l'historionomie ici, on travaille sur les modèles, notamment de l'évolution politique et du clivage, j'avais envie de redire 2 mots réfléchir avec vous justement sur la question du clivage et la question contextuelle du clivage. Parce que c'est une chose que j'ai déjà peut-être abordée par la tranche par le passé, mais c'est quelque chose qui est important. Comme vous le savez, le clivage, ça se structure autour d'un ordre établi. D'accord ? Vous avez ceux qui veulent que ça reste comme c'est, ceux qui préféraient que ça revienne comme c'était avant, c'est les réactionnaires, ceux qui veulent que ça reste comme c'est les conservateurs, ceux qui veulent que ça change un peu mieux pour, de leur point de vue, s'améliorer, en tout cas leur apporter plus, un deal plus favorable sont les progressistes, et ceux qui veulent tout changer et tout casser pour faire un truc tout à fait nouveau, c'est l'extrême gauche, les révolutionnaires, au centre duquel il y a la classe d'exclus, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas là au moment de la mise en place de l'ordre établi. Bien. C'est comme ça que ça se met en place un clivage politique et que ça se dessine. Maintenant, il y a des choses qui peuvent affecter la façon dont le clivage politique se met en place. Et en particulier, je voudrais répondre ici à une question qui m'a souvent été posée, notamment au moment de la réforme des retraites. Quand on me disait, mais regardez les syndicalistes, par exemple, les syndicats, tout ça, qui sont toujours considérés comme à gauche, alors qu'en réalité, ils sont conservateurs. Et par exemple, tout le mouvement, grosso modo, hein, Nicolas Kippé, la boulisphère, etc. Pourquoi ces gens sont plutôt catégorisés droite populiste, donc extrême droite, réactionnaire, dans le clivage, au sens Rassemblement National, donc, alors que déjà c'est une population C'est une population plus jeune et c'est une population qui, pour le coup, veut le changement et souvent est un peu révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on en a marre de la situation. Et donc, s'il faut bien ce que je tiens à expliquer là-dessus, c'est que il faut bien se rendre compte que tout est relatif. Et si vous prenez, si, je vais essayer d'être très clair là-dessus, vous avez des choses qui sont, ou des catégories de population qui sont prioritaires pour occuper certains créneaux, et une fois qu'elles y sont, elles peuvent être répulsives pour d'autres populations qui auraient pu occuper ce créneau-là. Je vous explique immédiatement, concrètement ce que ça signifie. Si vous aviez en France un clivage dans lequel il n'y a pas de population immigrée, on serait en gros comme le Japon. Bon. Vous auriez les retraités qui seraient à droite, qui seraient conservateurs pour que le système reste tel qu'il est, et tous les Nicolas Kippé, etc., en gros, seraient des gens qui seraient à gauche. À gauche des retraités. Parce que comment dire, le critère central, ça serait la question de qu'est-ce qu'il faut changer sur les retraites. Et donc vous aurez ceux qui sont pour le changement, les Nicolas, les jeunes actifs, etc., qui veulent changer le système à leur profit, et qui sont caractérisés par le fait qu'au moment où le système a été mis en place, c'est-à-dire que ce soit la retraite par répartition elle-même ou la retraite à 60 ans, etc., tous les acquis de la génération 68arde à partir de Mitterrand, ils n'étaient pas là. Donc, si vous voulez, les Nicolas Kippé, les jeunes actifs aujourd'hui entre 20 et 30, et 40 ans, sont des gens qui sont structurellement de gauche par rapport aux retraités, puisqu'ils n'étaient pas là au moment où ils ont mis en place le truc. Et les boomers, c'est un peu les aristocrates du système, qui ont mis le système en place à leur profit, et qui donc en sont conservateurs. D'accord? Bon. Donc, le clivage sur cette question et sur ces catégories de population, il devrait être comme ça. C'est-à-dire que vous avez les gens, les millennials, grosso modo, qui sont révolutionnaires ou progressistes, c'est-à-dire qu'ils veulent casser le système et le modifier, le système des retraites, pour que ça profite moins aux boomers et plus à eux, donc notamment en baissant les pensions de retraite. Et vous auriez les boomers qui seraient à droite, qui sont conservateurs parce qu'ils veulent les maintenir. Mais le truc, c'est que on n'est pas dans ce clivage-là en France parce que il y a d'autres populations. D'accord? Et notamment, on a ce qui touche la totalité de l'hémisphère occidental, c'est que nous avons une grosse population immigrée. Et que la population d'origine immigrée, depuis les 30, 40 ans derniers, elle est forcément plus exclue encore du système que ne le sont les autochtones, on va dire, actifs. Parce que les autochtones actifs, malgré tout, ils hériteront des boomers, pour une bonne partie. Et ils font ethniquement et culturellement partie de la même culture que les boomers. Et ça fait que forcément, toute la population immigrée est une classe exclue qui est plus à gauche que ces gens-là. D'accord? Donc, ça fait quoi? Ça fait que l'extrême gauche, elle est déjà occupée par la population d'origine immigrée, qui est très importante. Alors, vous trouvez alliée à elle une bonne partie de un équivalent, on va dire, des Nicolas, ou d'une partie des Nicolas, qui sont les Nicolas de gauche, on dirait, qui sont les électeurs LFI, beaucoup. Ou les électeurs urbains, etc., c'est-à-dire des gens qui paient des impôts, qui travaillent, mais qui ont aussi eu une hostilité dans le cadre du système de retraite, parce qu'ils voient les boomers qui tiennent toujours les places. Vous savez, je parle souvent du fait que, si vous regardez les cadres LFI, si vous regardez, par exemple, les instances, où vous voyez les milieux militants, etc., ce que vous voyez essentiellement, c'est de la jeune bourgeoisie ou petite bourgeoisie urbaine qui rêve de prendre les places aux personnes qui sont installées, à la bourgeoisie installée, et d'utiliser comme masse de manœuvre les immigrés à cette fin-là. Mais c'est un but finalement de jeunesse autochtone qui cherche à prendre le pouvoir sur la jeunesse, sur la vieillesse autochtone aussi. D'accord? Donc ça joue ça. Donc vous avez une partie des actifs qui sont effectivement à gauche dans ce système-là, mais à gauche en essayant d'utiliser la masse des immigrés, pas en faisant partie. Et par contre, vous avez toute une autre partie des gens qui, eux, sont carrément à l'extrême droite, on va dire. C'est les gens qui sont des jeunes autochtones, mais qui sont repoussés à l'extrême droite, pour ainsi dire, parce que tout en étant anticonformistes, c'est-à-dire en voulant casser le système, ils ne peuvent pas être à l'extrême gauche, parce qu'à l'extrême gauche, il y a les immigrés. Et que les immigrés, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils voudraient, généralement, ce sont des gens qui sont hostiles à l'immigration. Donc, ça force, si vous voulez, une partie, on va dire les Nicolas, parce que c'est la boulisphère, etc., qui est souvent qualifiée de fachosphère aussi, En réalité, ce sont des jeunes autochtones actifs qui normalement seraient à gauche des boomers. Ils seraient moins à gauche que les blancs de chez LFI, si vous voulez, mais ils seraient à gauche avec eux. Voilà. Les gauches LFI seraient encore plus à gauche, mais moins. Sauf qu'en fait, ils se retrouvent à l'extrême droite parce qu'à gauche, il y a les immigrés. En fait, c'est la population d'origine immigrée. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, le clivage. C'est en fonction des sujets, vous avez des sujets qui sont plus prioritaires sur d'autres et vous avez des populations qui sont prioritaires sur d'autres. Les immigrés sont prioritaires pour être à l'extrême gauche. Et le fait d'être hostile à l'immigration, plus en fait qu'au fait de devoir payer pour les boomers, parce qu'il y a l'idée malgré tout que les boomers, ils en hériteront, fait que les Nicolas, ils sont plutôt à l'extrême, ils sont à l'extrême droite. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, ils sont à l'extrême droite. Encore une fois, vite dit. Le Rassemblement national aujourd'hui, 40%, ça fait beaucoup plus qu'extrême droite. Hein. Partis actifs. Enfin, ils sont à droite dure. Alors que, dans le même temps, si vous synthétisez, les boomers, eux, c'était encore le cas jusqu'à récemment en tout cas, étaient très majoritairement au centre. Ils étaient très majoritairement au centre, les boomers. C'était l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est l'électorat centriste. C'est eux qui ont fait le règne d'Emmanuel Macron, c'est les boomers. Or, les boomers, c'est eux qui ont fait le règne de François Mitterrand aussi. Donc, quand ils sont arrivés, les boomers, ils étaient de gauche. Je crois à 65%, ils avaient voté Mitterrand. Ils se sont centrés sous Emmanuel Macron. Et l'étape suivante, c'est de glisser encore plus à droite. C'est de glisser encore plus à droite, d'autant plus qu'ils vont commencer à être remplacés. Et donc, c'est là qu'intervient, si vous voulez, le bouleversement de la Révolution, justement. Parce que. Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer avec la synthèse de, grosso modo, je vous avais fait le boomer, Nicolas Kippé, Karim Kippé. Ou Karim Kippé moins, d'ailleurs. Le Karim Kippé pas est encore plus à gauche que le Karim Kippé. Karim Kippé est entre Nicolas Kippé et le Karim Kippé pas, si vous voulez. Pour le faire très court. Donc, ce qui va se passer, selon moi, encore une fois, c'est que la gestion du problème des retraites et l'évolution là-dessus va recalibrer le clivage, mais va le recalibrer sur la base de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que on va voir soudain des gens qui vont se déplacer très vite sur le clivage par glissement. C'est-à-dire que à partir du moment où les boomers vont voir leur retraite être rognée, et en particulier à partir du moment où leurs retraites vont être rognées par le centre, parce que si vous regardez, à droite, il n'y a personne qui veut rogner les retraites des boomers. Hein. Le Rassemblement national, il n'y en est pas question. Enfin, une partie des élites du Rassemblement national, il n'y en est pas question. Il y en a une autre partie qui n'ose rien dire, je pense. Mais il y a une partie qui est carrément hostile. Et c'est le centre, avec le cornu, qui est en train de faire ça. Pour les LR, il est aussi hors de question de baisser les retraites, évidemment. Bon. Donc la droite est déjà hostile à la baisse des retraites. Vous allez avoir donc au fur et à mesure que ça va se faire, vous allez avoir les retraités qui vont de plus en plus lâcher le centre. Ça a déjà un peu commencé encore une fois. C'est ce que je vous avais dit au moment des élections législatives, parce que vous avez une partie de l'électorat boomer. Qui a commencé à avoir peur de la montée de l'insécurité et de l'immigration qui a explosé sous Macron. Et donc, ce sont des gens qui se sont dit, notamment en regardant CNews, mais CNews, c'est juste le truc qui aide à la prise de conscience. C'est pas. Disons plutôt que si les audiences de CNews ont augmenté comme ça, c'est une illustration de la droitisation des boomers. C'est pas CNews qui a droitisé les boomers. C'est une illustration du fait qu'ils ont glissé de BFM TV à CNews, en gros. C'est-à-dire qu'ils ont lâché progressivement Macron parce que, ben, et tout simplement, ils ont vu les immigrés apparaître de plus en plus dans les rues, y compris dans un endroit reculé. Ils ont vu les faits divers se multiplier. Et donc, vous avez une partie des gens je vous avais résumé ça comme ça, c'est Bernard et Chantal, qui se disent que c'est très important de continuer à toucher leur grosse retraite, mais s'ils doivent se faire égorger ou agresser en allant au restaurant le soir, c'est pas la peine. Donc, c'est pour aller au restaurant qu'ils veulent ça. Donc, ils se droitisent. À ce moment-là, ils commencent à zioter Rassemblement national. Et on a déjà observé ça, vous avez une partie qui ont commencé à voter plus à droite et à lâcher l'électorat Macron, c'est-à-dire une des choses qui a fait que le centre s'est dégonflé. Et donc, à partir de là, ce mouvement va continuer. Ce mouvement va continuer parce que, du coup, le centre est en train de se repositionner. Et c'est assez logique, parce qu'en fait, le centre, le cornu, Macron, etc., au fond, ne servait les boomers que par clientélisme. Parce que ils votaient pour eux, c'était un socle solide de vote. Mais la réalité, c'est que c'est pas la même génération, c'est pas les gens qui ont les mêmes intérêts, et l'électorat du centre, c'était aussi pour partie les gens, on va dire grosso modo CSP actif CSP+. Bon, et ces gens-là, à travers le débat sur les retraites, ils commencent à se dire eux aussi qu'ils n'auront pas de retraite et qu'ils en ont marre de payer pour les boomers. Voilà, donc ça joue. Et donc, vous avez, je pense que c'est la position de Lecornu illustre déjà cette mutation, c'est-à-dire le fait d'accepter qu'on va perdre les retraités et du coup d'essayer de faire revenir les Nicolas. Inversement, à gauche, à mon avis, le RN, à moyen terme, ça ne veut peut-être pas te faire à court terme, mais va se faire de plus en plus le réceptacle de l'électorat des retraités, alors que vous aurez des gens, des actifs qui auront voté RN pendant un moment, s'ils voient que les actions qui vont justement sur la limite des pensions des retraités, la refonte du système de retraite à leur profit, etc., que ces éléments-là viennent du centre, à ce moment-là, ils vont se recentrer électoralement. Surtout si en plus le centre essaie de commencer à faire des efforts sur l'immigration, ce qui pourrait finir par arriver. Donc à ce moment-là, vous aurez cette évolution du clivage dont je vous parlais, et je pense, c'est pour ça que je vous ai parlé de ça ce soir, je pense que cette question de ce que fait Lecornu, sur cette question des retraites notamment, est significative de ce qui peut être un début de ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des retraités qui vont être scandalisés, que on érode leur pouvoir d'achat en leur demandant plus sur les mutuelles, etc. Et vous allez avoir un certain nombre de millennials et de jeunes qui sont à droite, pas de gauche, de gauche ils resteront à gauche, mais qui sont à droite, qui vont se dire si je vois un Rassemblement National et des Républicains qui m'expliquent qu'il ne faut pas toucher aux retraites au montant des retraites, que c'est scandaleux. Mais qu'à côté, un centre qui, lui, commence, a compris le truc et est en train de prendre le truc à bras-le-corps, contraint et forcé, hein, notamment en raison des problèmes budgétaires, ben pourquoi pas, allons-y, quoi, hein, pour ainsi dire. Sachant qu'en plus, à gauche, on commence aussi à avoir ce genre de discours, je pense à... Bon, alors, c'est pas l'extrême-gauche, mais c'est Gabriel Attanzio, là, qui est professeur de, je sais plus quoi, d'histoire, de lettres à la Sorbonne. Je sais plus si c'est à la Sorbonne, enfin, c'est à Paris. Qui a été dans les émissions, là, du soir de BFM TV, et qui s'est fait une petite réputation, notamment sur X, avec ses extraits, parce que, personnalité de gauche, qui ose dire, ben, il va falloir baisser les retraites. Et donc, je pense qu'à terme, vous allez avoir, comme ça, cette mutation du centre, et qui correspondra au fait que les millennials et plus jeunes vont arriver au pouvoir et arracher définitivement le pouvoir des boomers. Je pense que c'est le mouvement. Et normalement, c'est ce qui doit se faire à l'occasion de cette révolution, de toute façon, parce que d'une certaine manière, ça serait la première. Ce que je disais l'autre jour, l'élection du Rassemblement National ou d'une coalition des droites, ça serait la première alternance significative depuis 50 ans. C'est-à-dire depuis le début du mitterrandisme, puisque tout le monde a fait grosso modo la continuité de Mitterrand depuis, personne n'est revenu sur l'explosion le grossissement du service public, sur le statut des intermittents du spectacle, la taille du ministère de la culture tel que bricolé par Jack Lang, les subventions à la presse, tout ça, personne n'est revenu dessus, hein. Le Rassemblement National pourrait revenir là-dessus. Alors, paradoxalement, il ne veut pas revenir sur les retraites, qui est le premier problème, mais voilà, je pense que tout ceci va se recalibrer, que de toute façon il y aura une explosion du Rassemblement National, parce que quand vous arrivez à un parti qui fait presque 40% des voix, ben, que c'est que vous avez plusieurs partis dedans, hein, ça n'existe pas autrement. Donc je pense que vous aurez l'aile Nicolas, qui deviendra rapidement un truc au centre, un parti de gouvernement, et l'aile vieille Front National, pas Nicolas, des retraités, ça deviendra une espèce de truc d'appoint que les Nicolas pourront toujours utiliser pour faire passer les politiques sur l'immigration, par contre, dont ils battront en brèche les intérêts pour ce qui est de la question des retraites. C'est comme ça que je vois, sur le plan fondamental, si vous voulez, les choses commencer à se dérouler. Et je pense que c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui viennent, parce que dès ce budget-là, et ça sera probablement encore plus vrai l'année prochaine, à faire à voir comment, si on arrive jusque-là, de toute façon, la question du budget l'année prochaine, il va se poser très vite, peut-être même avant même que ce budget-là soit ficelé. La question des retraites fait partie du budget. Quand on sait la part des retraites dans le budget, la part des retraites dans la dette accumulée depuis 10 ans, très clairement, c'est devenu le sujet. Et encore une fois, c'est au cœur de la mutation du système. Et je vous ai dit, une révolution, il y a une partie institutionnelle, il y a aussi une partie mutation des fondamentaux du système, équivalent à réforme agraire si vous voulez. Ça peut avoir lieu. Et je pense que ça aura l'effet que j'ai essayé de vous décrire sur le clivage politique. Maintenant, donc, est-ce que malgré tout, sur le plan institutionnel, ça va accélérer par une nouvelle censure la semaine prochaine, etc. Ben ça, on sera toujours à temps de le voir et de l'observer pour ainsi dire en direct. Alors, je vais jeter un petit œil pour voir si j'ai récupéré Internet. Oui, sur mon moniteur, très bien. Et donc, voyons ce que nous avons comme question. Et bien sûr, avant de poser les questions, je vous rappelle que vous pouvez, et même je vous encourage à nous soutenir, soit en devenant souscripteur pour avoir accès à toutes les contreparties, et il y en a quand même quelques-unes qui sont réservées justement à nos très chers souscripteurs, soit juste venant lâcher une petite piécette dans le chapeau sur Tipeee. C'est important aussi, ça nous fait plaisir. Encore une fois, j'essaie de vous donner beaucoup de contenu gratuit. Vous avez encore eu du contenu gratuit cette semaine, j'ai oublié de le dire, mais vous avez eu la première des deux conférences que j'ai données lors du congrès du 15 juin dernier, qui est sorti, hein, que vous pouvez aller voir sur l'épistémologie de l'historonomie. Apparaître probablement avant la fin du mois, je pense, il y aura une autre vidéo. Qui est celle de ma deuxième conférence, justement sur l'évolution future de l'économie française, la restructuration de l'économie française au sortir à la fois de la Révolution et de la Nouvelle Guerre mondiale. Donc, je pense, ce sont des choses qui vont vous intéresser. Donc, tout ça, c'est du contenu gratuit, mais n'hésitez pas à l'encourager. Alors. Ah oui, alors je vous rappelle que nous avons aussi instauré un nouveau truc sur proposition de notre cher Eroma, qui est que dans les commentaires, donc je vous encourage à pousser déjà, parce que ça je ne vous l'ai pas dit depuis le début de l'émission, mettez des pouces, c'est extrêmement important. Boostez si vous pouvez, j'ai l'impression que c'est toujours actif ce truc. L'autre jour, ça me l'a proposé alors que ça faisait un moment que ça ne me l'avait pas fait sur mon téléphone. Donc si vous pouvez aussi booster, c'est très bien. Ça aidera à la visibilité de la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en plus. Pour le référendement, une fois que le live est terminé, c'est-à-dire dans les commentaires. Et pour comment dire, pour encourager ce mouvement de mise de commentaires, nous rappelons que la question qui sera la plus likée, la plus poussée dans les commentaires, je la poserai, j'y répondrai gratuitement dans le live prochain. Et donc la question du dernier live la plus likée, c'était ceci: que faut-il penser de la proposition de la Russie concernant un tunnel reliant la Russie aux États-Unis. Alors, justement, je me fais penser que du coup, je ne vous ai parlé que de politique française, alors que je voulais vous dire deux mots de quelques autres choses. Ces autres choses, c'est quoi? C'est les restrictions. Ah oui, alors, une chose qu'il faut souligner. Les restrictions sur les terres rares de la Chine, désormais, sont. Alors, il me semble que ça a été annoncé par les Chinois. Il y a explicitement un truc qui fait qu'en gros, ils ne veulent pas qu'il y ait d'usage militaire pour l'usage, etc. Ou en tout cas que ça doit recevoir approbation express du PCC si ça doit être ça. Et ça, c'est très intéressant parce que ben, dans le contexte et vu le caractère monopolistique de la Chine, ça risque d'être un gros problème et de gêner beaucoup le réarmement européen. Puisqu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a besoin de composants électroniques en matière militaire, notamment pour des munitions intelligentes, etc., pour les drones notamment. Et donc, si on n'a plus accès à ça, c'est très très gênant. Et d'une certaine manière, ça peut restaurer une forme de parité industrielle entre la Russie et l'Europe, puisque vous savez, on s'est beaucoup moqué de la Russie, on s'est satisfait du fait que la Russie n'avait plus accès à un certain nombre de composants depuis le début de la guerre. La Russie a trouvé des moyens de contourner, mais elle n'avait peut-être quand même pas le même accès qu'avant le début de la guerre. Mais si désormais, en raison de la nouvelle politique de la Chine, l'Europe elle-même est soumise à des restrictions voisines, ça va peser sur... Donc c'est aussi un moyen pour la Chine d'aider indirectement la Russie en Ukraine. Et à ce propos-là, l'autre chose que je voulais dire, c'est à propos de l'évolution de la situation avec Trump. Ben, vous voyez, les choses sont allées assez vite par rapport aux autres fois. C'est allé plus vite. Si vous regardez ce que j'ai expliqué lors du dernier live, qui était justement sur ce sujet-là, Donald Trump n'a pas accordé Tomahawk pour l'instant, mais enfin, on sait que techniquement, de toute façon, les Tomahawk que je vous avais expliqué, c'était pas très facilement faisable. Par contre, il a à la fois annulé la rencontre avec Vladimir Poutine, parce que très clairement, ça n'avançait pas, ça n'a pas bougé. Il avait été question, j'avais lu ça sur Telegram, il y avait des gens qui avaient partagé des choses, il y avait des rumeurs, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans le live, de concessions supplémentaires que serait prête à faire Poutine, visiblement c'était faux. Je pense aussi que les rumeurs de Donald Trump qui auraient mis la pression à Zelensky pour abandonner le territoire, c'était faux aussi, assez clairement. Je pense que Trump a dû mettre la pression sur Zelensky juste pour avoir le cessez-le-feu sur la ligne de contact, ce que Zelensky avait déjà accepté il y a quelques mois. Mais dont je pense qu'il était redevenu réticent là-dessus, parce que comme entre-temps Trump avait fait son message sur Truth Social en mentionnant le fait que finalement il pensait que l'Ukraine serait capable de reconquérir le territoire, je pense que Zelensky a dû se dire, bah, du coup c'est bon, on va pouvoir reconquérir le territoire. Donc quand Trump a dû lui dire, je vais reproposer à Poutine de s'arrêter sur la ligne de contact, Zelensky a dû râler un peu en disant, ah oui, mais vous avez dit que... Donc je pense que c'est sur ça que Donald Trump s'est énervé, pas pour demander à Zelensky de donner des morceaux de territoire qu'il n'occupait pas. Ce qu'il n'a jamais fait depuis le début de la guerre. Il n'a jamais dit donner à Poutine des choses qu'il ne tient pas encore. Il est toujours resté sur ce que je vous avais dit le début d'ailleurs. Donald Trump ne concédera à Poutine que ce qu'il tient déjà. Bon. Or, Poutine veut plus, donc il n'y a pas d'accord. Donc, ils annulent le sommet. Et donc, Trump a lancé des sanctions importantes sur Rosneft et Lukoil, des sanctions supplémentaires. Qui doivent aussi, en plus, aider à servir à décourager la Chine et l'Inde d'acheter trop de pétrole. Donc, les choses avancent relativement vite sur ce plan-là aussi. Voilà les petits détails dont je voulais parler. Et donc, je reviens sur cette question. Que faut-il penser de la proposition de la Russie concernant un tunnel reliant la Russie aux États-Unis ? Je crois savoir qu'il y avait déjà eu un projet, mais il y a des décennies, je crois que c'était au courant 20e siècle, là, de pont qui pourrait y avoir au-dessus des droits de Bering. Si ça a été proposé, c'est un truc de Vladimir Poutine pour essayer de brosser Trump dans le sens du poil et de gagner du temps en lui disant « mais oui, je veux faire du business avec toi », etc. Ou d'ailleurs, probablement que la tentative de Poutine, ça a été d'abonder dans le sens de Trump en disant « mais oui, on va faire du business », etc. Et en utilisant ça comme moyen d'essayer de convaincre Trump de faire pression sur l'Ukraine, de lui lâcher des territoires qu'il ne tenait pas déjà. Et ça, Trump n'a pas voulu. Voilà. Mais à mon avis, ça va pas chercher plus loin. Voilà. Alors ensuite, autre question, autre don. Stéphane Ducot, merci. Philippe montre un lance-roquette en plein live. Je ne sais pas quel est le modèle. Tu prépares la résistance à l'occupation russe. Ah, oui, alors ça, c'est une blague sur le fait que j'ai essayé de montrer l'autre jour mon petit fusil derrière pour expliquer ce que c'était. Pour montrer aux gens ce que c'était, parce que les gens posaient la question, je ne sais pas ce que c'est. Il semble que ce soit un vieux truc d'une carabine de 1874 ou un truc comme ça. Le problème, c'est que du coup, je l'ai montré en live privé l'autre jour et que YouTube m'a fait sauter le live privé parce qu'en fait, c'est arme à feu en direct, on n'a pas le droit. Je n'avais pas du tout réfléchi à ça. Et donc, j'ai perdu le droit de streamer pendant quelques jours, en fait. Juste, on l'a récupéré, d'où les streams possibles ce soir. Mais on ne m'y reprendra pas, je ne le referai pas. Mais j'avais quand même répondu à toutes les questions qui avaient eu le temps d'être posées. Du coup, j'ai enregistré et j'ai publié la vidéo comme je n'avais pas le droit de le faire en direct. Notre cher Olayer, le maître du « il n'y aura rien », le PS et les syndicats qui défendent les retraités, les recrutements de fonctionnaires qui augmentent chaque année, qu'est-ce qui remplacera le paradis matérialiste dans l'esprit des gens ? Ça, c'est une grande question. Mais déjà, je pense qu'on est dans des sociétés un peu différentes où les gens n'ont pas la même perception des choses. Même dans la jeunesse, on le voit, il y a des retours du sentiment de religieux, quête du sens, etc. Alors, je ne sais pas exactement quelle forme ça prendra. Mais le besoin d'un paradis matérialiste fin de vie, c'est peut-être quelque chose qui s'échappera au profit justement de recherche plus de sens. Voilà. Et avec l'idée notamment que si vous devez travailler plus longtemps, pourquoi pas si ça doit avoir du sens. Après, est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, mais au plan sociétal, voilà, je dirais que je peux voir imaginer une évolution comme ça. Docteur Sherlock, quelle sera la prochaine croyance après l'écologie? Alors, je sais pas dans quel... Alors, la question est compliquée parce qu'en plus, l'écologie, c'est plus qu'une croyance. Voilà, c'est dans un contexte, etc. L'écologie, en fait, je dirais plutôt que la croyance, c'est le scientisme en général. C'est-à-dire que l'écologie, pour moi, n'est qu'un aspect de ça. L'écologie elle-même se fonde sur un sous-jacent encore plus profond, qui est le fait de croire au modèle du réchauffement climatique, de croire les travaux du GIEC, les rapports, les institutions scientifiques, etc. C'est ça vraiment le sous-jacent. L'écologie, c'est on va dire une des fois qui est sur ces fondamentaux-là. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on aura en post-scientisme? C'est ça l'idée. Je pense que le post-scientisme, il y a de bonnes chances que ce soit simplement le retour de la religion sous une forme quelle qu'elle soit. Docteur Sherlock encore, avant le 31 décembre 2025, il y aura rien ou il y a quelque chose? J'ai l'impression que les choses accélèrent et donc je pense qu'il se passera quelque chose quelque part. En disant ça, ça fait toujours, mais je pense qu'il va se passer. Je pense qu'il va se passer des choses, effectivement. Je pense qu'il va se passer des choses. Je l'ai dit, même du côté. Alors, je peux me tromper, hein, c'est juste au pif, mais même du côté de la Russie, j'ai l'impression que ça accélère beaucoup, beaucoup. S'il se passait des choses en novembre, je serais pas hyper surpris. Je suis pas en train de dire il va se passer des trucs en novembre. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. Moi, je vous ai dit, à mon avis, ça pourrait être dans les 6 mois, d'autant plus que je vous ai toujours dit qu'à mon avis. Il se passerait quelque chose éventuellement dans les pays baltes, dans les 6 mois d'une forme de règlement en Ukraine, c'est ça que je vous avais dit. Une forme de règlement, c'est une solution trouvée, ou qui ressemble à une solution. Un truc en tout cas qui fait que, grosso modo, on sait ce qu'il en est. Et je pense que, depuis le mois d'août, Poutine sait ce qu'il en est de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il n'obtiendra pas de concession. Et donc, il n'obtiendra pas de gagner la guerre en faisant plier Donald Trump. Gagner la guerre. En Ukraine, par la guerre seule, c'est compliqué. Donc, a priori, vous partez dans ces cas-là sur autre chose. Sur autre chose, c'est une escalade, etc. Voilà, c'est ça qui est cohérent. Donc, j'ai aucun indice qui permet de dire que ça ira plus vite que ça. Mais, disons que je commence à y croire. Alors qu'encore une fois, c'est pas, comme vous le savez, j'étais pas à me précipiter à y croire. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, en gros, on dit depuis tous les 6 mois que. Non, moi, j'ai jamais dit tous les 6 mois, il y aurait une invasion des pays baltes. Ce n'est pas vrai. Je vous ai dit qu'à terme, il y en aurait une, mais depuis l'invasion de l'Ukraine, je n'ai jamais dit tout le temps, ah, ça y est, bientôt il va y avoir l'invasion des pays baltes. Non, je vous ai dit que pour moi, ça restait, parce que certains ont cru que, bah, du coup, vu la faible performance russe en Ukraine, ça n'aurait pas lieu. Je vous ai dit toujours que moi, je pensais que ça aurait lieu quand même, mais je n'ai jamais dit que ça aurait lieu dans 2 mois. Là, ça commence à sembler pouvoir avoir lieu dans les 6 mois. Voilà. Je vous l'ai dit, et je le répète. On a une question choir. Totalement pris au hasard sans aucun parti pris, me dit Iruma. À partir de quel seuil de retraite faudrait-il baisser de 50% selon vous, Philippe? À partir du moment où on est retraité. Je vois pas pourquoi on ne baisserait pas. Même les petites retraites, vous allez me dire, oui, les gens se débrouillent. Encore une fois, il ne s'agit pas de voler quelque chose aux gens. C'est de l'argent. L'argent qui leur est donné est volé. L'argent qui est donné, mais même le type qui aurait 800 balles, comme vous dites, alors, je comprends même pas les gens qui disent j'ai 800 balles de retraite alors que je crois que le minimum vieillesse c'est à 1000 balles, donc si vous avez que 800 balles, je comprends pas, vous avez le minimum vieillesse, voilà, vous avez plus que ça normalement. Mais si vous avez que ça, déjà c'est que vous n'avez pas cotisé des masses, alors soit vous avez rien foutu, soit vous avez travaillé mais vous avez travaillé au black, et à ce moment-là il faut vous en vouloir qu'à vous, et souvent les gens qui ont travaillé au black ils ont du patrimoine à côté, parce que l'argent au black ils l'ont gagné, ils ont su en faire quelque chose. Donc ça veut dire que bah, liquider le patrimoine à ce moment-là. Hein, bon. Et si vous avez à la fois peu de retraite, moi je suis désolé, ma grand-mère quand j'étais gamin avait une toute petite retraite, d'accord. Elle avait été domestique, elle n'avait pas eu de trucs, d'accord, très bien. C'était il y a 40 ans, hein, ou il y a 30 ans. Des gens qui sont dans cette situation, parmi les boomers, je suis désolé, les gens qui ont des si petites retraites alors qu'ils sont de la génération des boomers. Ils ont eu un problème, quelque part. Bon, en plus, 80% d'entre eux est propriétaire, donc ils peuvent toujours vendre, ça fera baisser les prix de l'immobilier. Donc moi, je ne vois pas de limite, si vous voulez. Et puis encore une fois, c'est de l'argent, de toute façon, quel que soit, ils aient travaillé, etc., très bien, c'est de l'argent qu'on leur donne en le prenant à quelqu'un d'autre, qui lui travaille. Est-ce que je dois de l'argent à un petit retraité au motif qu'il a une petite retraite ? Est-ce qu'il a droit à une partie de mon argent au motif que, en ayant 40 ans de plus que moi, il n'a pas su se démerder ? Vous voyez, au bout d'un moment, je suis désolé, mais on en crève de devoir sans arrêt être gentil avec les gens qui ont rien foutu ou qui ne sont pas su se démerder, etc. Au bout d'un moment, c'est possible, mais enfin, un tel boulet au pied, on n'a plus envie de crever pour eux. Voilà, on a fait ce qu'on a pu pendant des années, ils ont pu vivre au-dessus. Franchement, les gens qui touchent ces retraites-là alors qu'ils ont si peu bossé, c'est parce qu'on a fait énormément d'efforts pour eux. Maintenant, on arrête de faire des efforts, voilà, parce que sinon, c'est nous qui allons crever, et on n'a pas envie de crever, voilà. Et si c'est nous ou eux qui doivent crever, ben, on choisit que c'est eux, parce qu'à partir du moment, hein, c'est pas nous qui leur prenons leur argent, encore une fois, j'insiste là-dessus. À aucun moment, il s'agit de dire, on va aller prendre l'argent des boomers. Non, il s'agit juste de dire, on arrête de donner notre argent aux boomers. Je suis désolé, au plan moral, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, c'est moins 50% pour tout le monde. Petite retraite, grosse retraite, tout le monde. Moins 50%, parce que c'est tout le monde qui reçoit deux fois ce qu'il a cotisé. Voilà. Donc c'est de la justice. Après, les gens se débrouillent. Voilà. Et puis, s'ils ont des enfants qui travaillent, les gens qui ont une toute petite retraite, leurs enfants qui travaillent, ça leur coûtera moins cher en retraite, et bien ils aideront leurs parents avec ça. Qu'est-ce que je vous dis, hein ? C'est pas mon problème. Hein, voilà. Si mes parents ont des problèmes parce que ils ont des soucis de retraite mais que je paie moins de retraite, ben je m'occuperai de mes parents. Voilà, on se débrouillera. Hein, ou ils vendront leur maison. En fait. C'est comme ça que ça se passe. Faut accepter. Voilà. J'aurai peut-être moins d'héritage, mais tant pis. C'est pas ça. J'attends pas après mon héritage. Ce que je voudrais, c'est pouvoir toucher ce avec quoi je travaille. Et je voudrais surtout vivre dans un pays qui, dans son ensemble, a une économie plus dynamique parce qu'il n'est pas essoré continuellement pour permettre à des vieux soit de mettre de l'argent de côté, soit de vivre au-dessus de ce qu'aurait dû leur permettre normalement le travail qu'ils ont fait auparavant. Voilà. Donc j'ai pas de limite là-dessus. Et je le redis, pour moi, c'est moins 50% pour tout le monde. Et c'est justice. Bien. Ensuite, Matt Broshiker. Les maux démographiques, chute de la fécondité, vieillissement et baisse de la population, ne vont-ils pas tuer le système capitaliste actuel ? Les maux démographiques, ça tue absolument tout. Effectivement, la civilisation s'est déjà effondrée par deux fois. Il y a eu deux effondrements systémiques de la civilisation. À chaque fois, c'était à cause d'une crise démographique, qui elle-même est l'effet de la civilisation. Je renvoie aux émissions que j'ai faites sur le prochain Moyen-Âge où j'ai détaillé tout ceci. Docteur Sherlock, qui est partout, a aussi fait des dons sur Tipeee, je le remercie. Alors, il nous dit « Bonsoir, quel paradis alternatif laïque sera intenté après la réforme des retraites ou alors reviendra la religion ?» Alors, est-ce que c'était pas déjà... non, c'était déjà un peu proche, assez proche de la question qu'avait posée Olivier quand même, donc j'ai en partie répondu à ça. Bah, du coup, je crois que j'ai répondu à ça, hein, entre la quête du sens et tout ça, pour moi, on est... j'ai d'une certaine manière déjà répondu. Et big up à l'historionomie, nous dit-il avec son deuxième don. Grazie mille. Voilà, alors je suis toujours chez mon ami Roma, je pense qu'il n'a rien d'autre. Je vérifie, je fais une petite actualisation pour voir. J'ai oublié de dire qui nous avait rejoint. Est-ce que des gens nous ont rejoints sur Tipeee depuis une semaine ? Non. Alors, si, il y a eu des types de David qui nous a rejoint. Jean aussi nous a fait un type ponctuel. Et je le remercie beaucoup pour ça. Ensuite, il y a eu le type de Dr Sherlock, mais ça, j'ai déjà dit merci. Mais je redis merci. Après tout, il n'y a pas de raison. On ne dit jamais assez merci. comme aurait dit J.D. Vance. Qu'est-ce que je voulais aller voir ? Oui, est-ce qu'on a des gens qui nous ont rejoints parmi les souscriptions YouTube ? On va aller dire bonjour. Alors, nous avons Baudouin le Lépreux qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Bruno Garnier. Alors, Eden Pass, je pense. The Parm, et puis c'est tout. Les autres étaient déjà là avant, mais je les remercie infiniment. Et je refais merci aussi Didier Di Fusco pour son passage au niveau supérieur. Bien, mais écoutez, je pense que nous avons fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir ce soir. Je vais retrouver les souscripteurs dans le live privé. Je vous salue tous bien bas. Je vous rappelle de pousser si vous ne l'avez pas encore fait, de booster si ça vous est proposé par votre ordinateur, de rajouter un petit peu de commentaire. Encore une fois, on gardera la question la plus likée pour le prochain live. Et n'hésitez pas à partager aussi sur vos réseaux sociaux en disant à vos copains, allez voir ce gars, il est très intéressant, si c'est ce que vous en pensez, bien entendu. À très bientôt, vous laissez pas faire.